Féroé, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia et Claire Morin-Gibour avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir.
Réaménagement du gouvernement au Gabon, 2 semaines après la mise en place d'une nouvelle équipe.
Les pourparlers entre Bangui et les groupes armés centrafricains se poursuivent à Khartoum. La question de l'amnistie est au cœur des débats.
Si nous, les anti-Balaka, nous sommes aujourd'hui ici à Khartoum, c'est pour chercher à décrocher l'amnistie, qui est le pardon. Parce que quand il y a pardon, il y a l'amour, il y a l'unité, il y a le développement.
Les recherches se poursuivent au large de Djibouti au lendemain du naufrage de 2 embarcations de migrants, bilan au moins 48 morts et plusieurs portées disparues.
Nous ferons également le point sur les derniers développements dans les négociations entre Washington et les talibans afghans.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Au Gabon, le chef du gouvernement se sépare de 3 de ses ministres. La mairesse de la capitale gabonaise est promue ministre de la Défense. Aucune raison officielle pour expliquer ce qui apparaît comme un limogeage de 3 membres du gouvernement qui avaient prêté serment le 12 janvier. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
À seulement 2 semaines et demie après leur entrée en fonction, le premier ministre gabonais Julien Corbeil-Essé se sépare de 3 ministres de son tout premier gouvernement. Il s'agit d'Ali Akbar Onanga Yobegué, récemment ministre de l'Agriculture, remplacé au poste par Biendi Manganga Moustavou, jusqu'ici patron de la promotion des investissements. Christian Magnania cède son portefeuille de la valorisation et de l'industrialisation des ressources minières à Norbert Emmanuel Tony Ondomba, qui va cumuler avec l'eau et l'énergie. Enfin, l'édile de la capitale gabonaise, en embuscade pour sa succession à l'hôtel de ville prévu dimanche prochain, se voit tiré d'affaire. Rose Christiane Osuka Raponda a été promue ministre d'État à la Défense en remplacement d'Étienne Massar Kabinda Makaga. L'équipe de 37 ministres au départ subit donc un léger dégraissage avec ce qui apparaît comme un limogeage de 3 membres du gouvernement considérés comme parmi les fidèles du président Ali Bongo Ondimba. Des interrogations subsistent naturellement sur l'urgence de ce réaménagement partiel du cabinet Julien Corbeil-Essé, qui a prêté serment devant le président gabonais le 15 janvier dernier à Libreville. Libreville, Ismaël Obianze, pour la Voix de l'Amérique.
Les pourparlers à Khartoum entre les groupes armés de Centrafrique et le gouvernement de Bangui achoppent sur de nombreux points, dont l'amnistie. Lancée jeudi dernier, ces négociations butent sur les revendications des groupes armés, notamment la question de l'amnistie et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les 14 groupes armés contrôlent la plus grande partie du territoire centrafricain. Nous y reviendrons dans la partie magazine.
L'ONU demande le respect des libertés d'association et d'expression au Cameroun, des déclarations qui interviennent après l'arrestation d'opposants suite aux marches organisées par le parti d'opposition de Maurice Kamto. Le quotidien camerounais Le Jour est quant à lui sans nouvelles de 2 de ses journalistes partis couvrir l'interpellation. Raissa Girondin.
Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, appelle les autorités camerounaises à respecter les libertés d'association et d'expression et réitère l'établissement d'un dialogue inclusif. Il condamne les actes de violence contre les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin suite à l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est arrivé 2e à la présidentielle d'octobre dernier, revendique toujours la victoire. Samedi, il a été arrêté après son appel à manifester contre la réélection de Paul Biya. Des journalistes ont été arrêtés en marge des interpellations d'opposants. Selon Aman Mana, directeur de publication du quotidien Le Jour, ces journalistes Théodore Chopa et David Eyengue s'étaient rendus à la résidence de l'opposant Albert Zongan, où a été interpellé Maurice Kamto. La rédaction et leurs proches sont depuis sans aucune nouvelle.
Par ailleurs, les autorités camerounaises ont annoncé l'envoi de 130 soldats d'élite dans la région de l'Adamawa pour lutter contre les prises d'otages. Ces éléments de la gendarmerie vont renforcer durant 5 mois l'effectif de l'armée pour combattre les preneurs d'otages actifs dans la région. Entre 2015 et 2018, 311 enlèvements ont été enregistrés dans cette région, selon le rapport d'une association de Mbororo, des éleveurs nomades du Cameroun.
Les recherches se poursuivent au large de Djibouti au lendemain du naufrage de deux embarcations surchargées de migrants. Il y a eu au moins 48 morts et des dizaines d'autres personnes sont toujours portées disparues. Ekiabadou.
Ces survivants ont été retrouvés selon l'Organisation internationale pour les migrations qui dit apporter son soutien aux autorités djiboutiennes qui continuent à patrouiller le littoral en quête d'autres survivants. Le naufrage a eu lieu mardi. Les deux bateaux surchargés en partance pour le Yémen ont chaviré dans une mer agitée. Le nombre de personnes se trouvant à bord est incertain. Un des survivants a estimé que 130 se trouvaient sur son bateau, mais impossible de faire une estimation pour le second. Le détroit de Bab al-Mandeb, qui sépare Djibouti du Yémen, est le point de passage de bateaux chargés migrants dans les deux sens. Ceux qui fuient la guerre au Yémen et ceux qui quittent la Corne de l'Afrique pour aller chercher du travail dans la péninsule arabique. En 2017, quelques 100 000 migrants ont rejoint le Yémen. Certains ont dû rebrousser chemin face à la guerre et à la crise humanitaire au Yémen. D'ailleurs, les Nations Unies ont prévenu en décembre que près de 80% de la population yéménite, environ 24 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire.
Le parti Convergence pour la démocratie sociale, deuxième parti d'opposition de Guinée équatoriale, demande le départ de Yaya Jammeh du pays. De larges affiches contre la présence de l'ex-président gambien, exilé en Guinée équatoriale depuis 2017, ont été accrochées à Malabo par des opposants, lui demandant de rentrer chez lui pour y être jugé.
Le député ghanéen qui avait appelé à frapper un journaliste d'investigation quelques semaines avant son assassinat a été convoqué par le Parlement. Il sera entendu par une commission spéciale sur l'éthique. Le président du Parlement a dénoncé l'attitude de Kennedy Agyapong, député du parti au pouvoir, qui, selon lui, a terni l'image de l'Assemblée. Kennedy Agyapong avait révélé l'identité et le visage d'Ahmed Hussein Souale, journaliste d'investigation, qui est à la base de graves révélations sur des scandales de corruption dans le football africain.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, les talibans et les États-Unis ont convenu de créer deux équipes techniques chargées de déterminer les détails du retrait éventuel de toutes les troupes américaines et de l'OTAN d'Afghanistan et d'empêcher les terroristes d'utiliser le sol afghan contre l'Amérique et ses alliés. Les précisions de John Linden.
Ces détails ont été révélés par le mollah Sher Mohamed Abbas, négociateur en chef des talibans, après presque une semaine des discussions qui se sont achevées samedi au Qatar avec le représentant spécial américain pour la réconciliation en Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Les deux équipes techniques vont préparer les propositions, prendre les décisions et convoqueront la prochaine réunion prévue à Doha le 25 février. Une rencontre plus importante sera ensuite organisée avec les grandes puissances, les Nations Unies et des représentants des pays islamiques. Les États-Unis doivent également annoncer un calendrier pour le retrait de leurs troupes. Ces dernières ne peuvent pas partir immédiatement, a reconnu le négociateur en chef des talibans, ajoutant que ces détails seront mis au point par les équipes techniques. Il a également affirmé que les États-Unis ont accepté de participer aux efforts de reconstruction après le retrait de leurs troupes. Le gouvernement afghan et les autorités américaines n'ont pas encore réagi à ces affirmations. Dans une série de tweets, le président Donald Trump a reconnu que les négociations se déroulent bien après 18 ans de combat en Afghanistan.
Et sur le Venezuela, le président américain Donald Trump a félicité aujourd'hui par téléphone l'opposant Juan Guaido qui s'est proclamé président par intérim. Le président Trump a salué son arrivée qu'il a qualifiée d'historique à la tête du pays selon le compte-rendu de l'échange diffusé par la Maison-Blanche.
Les États-Unis et la Chine ont repris aujourd'hui leurs négociations commerciales à la Maison-Blanche dans un climat de tension. Le vice-premier ministre chinois, Liu He, doit rencontrer le président Trump à l'issue des pourparlers jeudi.
Rome a annoncé avoir trouvé un accord avec 6 autres pays européens pour répartir les 47 migrants bloqués depuis 12 jours en mer. Pour sa part, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a déclaré travailler à une interdiction des eaux italiennes aux navires d'ONG secourant des migrants au large de la Libye.
Le vote hier du Parlement britannique sur le Brexit a accru le risque d'un retrait désordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne, a averti Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Les 27 doivent se préparer à tous les scénarios, y compris le pire, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le gouvernement allemand a exclu toute renégociation de l'accord sur le Brexit conclu avec l'Union européenne et réclamé par la première ministre britannique Theresa May.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
Le Cameroun a exporté 15 605 tonnes de bananes le mois dernier, un volume en baisse de près de 2000 tonnes par rapport au mois de novembre. Selon Investir au Cameroun, plus de 90% des exportations ont été assurées par la société PHP, une filiale de la compagnie fruitière de Marseille et leader du marché camerounais de la banane dessert. Beau Plantation a de son côté exporté 1 262 tonnes. La CDC, le deuxième employeur du pays après l'État, ne figure toujours pas sur la liste des exportateurs à cause de l'arrêt de ses activités dû à la crise dans les régions anglophones, notamment le sud-ouest où se trouvent ses plantations. La bourse de Nairobi au Kenya, qui compte 65 sociétés cotées, souhaite lancer un marché de produits dérivés au premier semestre 2019 et inscrire au moins 2 nouvelles sociétés d'ici la fin de l'année. Le Kenya sera le deuxième pays en Afrique subsaharienne à réaliser ce genre d'action après l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, de hauts responsables gouvernementaux discutent de l'opportunité de scinder la société d'État d'électricité Eskom en unités de production, de transport et de distribution d'électricité afin de sauver cette société d'État de la crise financière. Les mineurs soutiennent la restructuration d'Eskom, estimant que les hausses de tarifs ne résoudront pas ces problèmes. Avec une demande en électricité d'environ 30%, le secteur des mines et des fonderies est l'un des principaux clients d'Eskom.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Revenons sur l'organisation de la CAN 2023 acceptée par la Côte d'Ivoire.
Oui, la Côte d'Ivoire est d'accord pour accueillir la compétition en 2023 en lieu et place de 2021 comme initialement prévu. C'est le président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui l'a annoncé hier à Abidjan au terme d'une rencontre avec le président Alassane Ouattara. Les précisions avec notre correspondant sur place, Georges Ibrahim Tunkara.
Ahmad Ahmad, le président de la CAF, s'est présenté à la presse, satisfait d'avoir convaincu les autorités ivoiriennes de renoncer à la CAN 2021 pour celle de 2023.
Je remercie sincèrement le chef de l'État de la Côte d'Ivoire d'avoir pris en compte cet aspect de solidarité que allons soutenir ce glissement pour que 2021, la CAN sera au Cameroun et la Côte d'Ivoire en 2023 et en 2025, la Guinée sera le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations.
Pour le ministre ivoirien des Sports, Paulin Danho, la Côte d'Ivoire poursuivra ses investissements afin que la CAN 2023 soit une réussite.
Le président nous a instruit de poursuivre l'ensemble des travaux en cours pour que les délais soient tenus et nous allons nous y mettre avec le comité d'organisation, le COCAN, pour que toutes les infrastructures sportives et d'hébergement soient réalisées dans les délais prévus contractuellement.
La CAN 2023 à la Côte d'Ivoire en lieu et place de celle de 2021, réaction de quelques Ivoiriens.
La Côte d'Ivoire n'est pas prête pour organiser la CAN en 2021.
Et puis en 2020, avec tous ces mouvements d'élection, tout ça, on ne sera pas prêt à organiser une CAN.
2021, c'est mieux. On est pressé parce que depuis 1984, on n'a pas organisé jusqu'à présent. Ah, maintenant, c'est en 2023, on va attendre. Il y a l'âge aussi qui passe. Puis aujourd'hui, l'expérience de vie est trop courte, donc on ne sait pas. Il ne faut pas en pas voir. Hein.
En Europe, le retour de Neymar est attendu dans 10 semaines.
Oui, la star brésilienne du Paris Saint-Germain, blessée au pied droit, doit retrouver les terrains dans un délai de 10 semaines, c'est-à-dire début avril. Après réunion d'un groupe d'experts médicaux, un consensus s'est dégagé pour proposer à Neymar un traitement conservatif de la lésion du cinquième métatarsien droit, a expliqué le PSG, qui rejette donc l'hypothèse d'une nouvelle opération. La date de retour espérée correspond au quart de finale de la Ligue des Champions. Les matchs aller sont programmés les 9 et 10 avril et les matchs retour les 16 et 17 avril. Pour être en quart de finale justement, le PSG devra se qualifier sans Neymar face à Manchester United lors du choc des 8e de finale avec un match aller le 12 février à Old Trafford et un match retour le 6 mars au Parc des Princes.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahmane Diaye, Claire Morin-Jubourg, toujours avec vous pour la seconde partie du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place au dossier du jour.
Le dialogue de Khartoum, initié par l'Union africaine en vue d'aboutir à un accord de paix entre le gouvernement et les rebelles centrafricains, entre dans sa phase cruciale. Les 14 groupes armés veulent une amnistie et le partage du pouvoir. Félix Yepassi-Zemrou, adjoint à Khartoum, Béranger Ludovic Igor Lamaka, le porte-parole du mouvement des anti-Balaka.
Sur cette question, je crois que nous nous sommes rencontrés, vu avec ceux qui nous gèrent depuis Bangui au niveau de la justice. Je vais parler de M. Flavien Mbata, qui est en mise à la justice en RCA. Nous avons posé comme préalable par rapport au démarrage de nos dialogues ici, à Khartoum. Mais les facilitateurs, l'Union africaine et l'ONU, les amis en face de nous, nous avons eu des échanges entre nous. Et nous avons parlé entre nous en tant que centrafricains. Nous avons trouvé des compromis entre nous. Il y a un mécanisme qui sera mis en place d'ici bientôt entre les avocats de Patrice Edouard Nguessona à Bangui, à savoir la personne de Maître Mathias Mourouba, Maître Timolien Kokongo, avec le ministère de la Justice, ils vont saisir la CPI sur le dossier Patrice Edouard Nguessona. Parce que le pouvoir de Bangui dit qu'ils n'ont pas de dossier contre Nguessona au niveau d'un tribunal ici en RCA. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ont arrêté Patrice Edouard Nguessona à Paris.
Maintenant, que peut-on retenir pour parler de Khartoum qui sont ouverts depuis le 24 dernier?
Nous sommes là pour la paix au nom du peuple centrafricain. Et je crois que c'est le seul peuple centrafricain qui sera le gagnant de cette pourparlers ici à Khartoum. Et il y a des avancées dans ça. Et demain, le peuple centrafricain retrouvera la paix totale sur toute l'étendue du territoire national.
Quelle est la position des anti-Balaka par rapport aux revendications des 14 groupes armés? Revendications qui portent notamment sur l'amnistie et puis le partage du pouvoir.
Si nous, les anti-Balaka, nous sommes aujourd'hui ici à Khartoum, c'est pour chercher à décrocher l'amnistie, qui est le pardon. Parce que quand il y a pardon, il y a l'amour, il y a l'unité, il y a le développement. Quand il y a le pardon, demain la justice en suivra. Mais il faut d'abord mettre le pardon devant les choses pour que la paix revienne totalement, pour que ceux qui sont en face déposent totalement aussi leurs armes, ils reviennent dans la vie civile et on pense à le développement de notre pays.
Êtes-vous optimiste quant à l'issue de ces pourparlers de Khartoum?
Je tiens à vous dire que je suis optimiste et pour la formation du gouvernement, je tiens à vous dire que si de telles choses pareilles ont eu lieu dans un pays, il faudra ce genre de gouvernement de sortie de crise pour unifier le pays, mobiliser l'énergie de tout le monde, les anciens groupes armés, le pouvoir en place, la société civile et les partis politiques. C'est un gouvernement de sortie de crise, donc on a besoin de la présence de tout le monde pour que la paix revienne totalement en République centrafricaine parce que ce pays a trop souffert et ce pays a besoin aujourd'hui de vivre. Ce pays a aujourd'hui besoin d'être en paix et de vivre en paix.
Béranger Ludovic Igor Lamaka, le porte-parole du mouvement des anti-Balaka.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Congo-Brazzaville, la fédération de l'opposition appelle à la libération de l'espace politique pour qu'elle puisse tenir régulièrement ses activités. Cette plateforme a annoncé la relance de ses activités malgré les obstacles posés, selon elle, par le pouvoir. Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Après avoir dressé un tableau péruvisant du Congo, Claudine Mounari est pourtant restée optimiste, affirmant que les Congolais pouvaient vivre mieux si les dirigeants avaient fait de meilleurs choix économiques. Quasiment absente de l'espace politique en 2018, la Fédération de l'opposition congolaise annonce des grandes actions en 2019. Claudine Mounari.
En tout cas, on va trouver comment travailler, parce qu'on ne peut pas rester dans un désert et n'écouter qu'un seul son de cloche, c'est pas bon. Je crois que c'est une année de réalisation en 2019. On ne peut pas tomber plus bas qu'on était tombé. Donc je suis convaincue que chacun y mettra du sien, la fédération fera sa part, mais il faut qu'on arrive à faire bouger les lignes.
Pour sa part, Charles Zachary Bouaou a plaidé pour plus d'espace politique pour la fédération de l'opposition, considérés parfois comme des radicaux.
Vous savez bien que nous ne pouvons pas tenir, et on l'a dit, des activités sur la place publique parce que le pouvoir ne le permet pas. Chaque fois que nous avons programmé quelque chose, nous sommes toujours précédés par la force publique. Même dans les hôtels, au palais du Parlement, ailleurs, on ne nous autorise aucune salle pour nous permettre de faire nos activités. Ça peut donner l'impression, effectivement, que nous avons disparu de l'espace public, ce qui est faux. Donc, la crise aujourd'hui, elle est là. Nous l'avons dit depuis. Nous continuerons à faire ce qui relève de notre pouvoir et de notre capacité de mobilisation des populations, en interpellant chaque fois les élites, en interpellant chaque fois les populations, en invitant les Congolais à être Congolais et à prendre leurs responsabilités devant l'histoire.
Les opposants ont encore appelé à la libération des prisonniers politiques. Ils ont marqué leur solidarité à André Okombi-Salissa, un opposant dont le procès s'ouvre ce jeudi à Brazzaville. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Ce jeudi, dans Washington Forum, gros plan sur le terrorisme au Burkina Faso. Deux nouvelles attaques ont fait 14 morts dans la province du Soum cette semaine. Les incursions djihadistes se multiplient dans ce pays jadis épargné par le terrorisme. L'état d'urgence, décrété dans plusieurs régions, peine à prouver son efficacité et le président a limogé mi-janvier le chef d'état-major de l'armée. Qui sont les terroristes qui opèrent au Burkina Faso? Que revendiquent-ils? Que manquent-ils à ce pays pour leur faire face? Morgane Guiriec en votre compagnie, on en discute ce jeudi à 19h temps universel.
Une récente étude de l'organisation Greenpeace affirme que les mines de charbon d'Afrique du Sud ont la pire qualité de l'air au monde. 12 grandes mines de ce pays produisent des émissions toxiques de dioxyde d'azote, ce qui ruine la santé et la vie autour de leurs installations. Reportage d'Anita Powell, le récit est de Michel Joseph.
Patrick Ndouli a développé des problèmes pulmonaires peu après son déménagement à Medelberg, au milieu des mines de charbon d'Afrique du Sud.
The mines, the dust, pollution.
Les mines, la poussière, la pollution, vous allez chez le médecin, ils vous disent la même chose. Vous vivez près d'une mine, oui. Vous vivez à côté d'une décharge, oui.
Yes, I am.
La zone charbonnière sud-africaine est l'arrière-cour de Ndouli. L'année dernière, cette région agricole a reçu une malheureuse distinction. Greenpeace l'a classée comme ayant la pire qualité de l'air au monde. Le docteur Mohamed Tayob, directeur du centre médical Bamba Naani, une des principales cliniques de Medelberg.
Children and adults.
Les enfants et les adultes payent le prix ultime. Lorsque je dis prix ultime, c'est la perte de développement neurocognitif. La mortalité infantile est plus élevée dans notre région que dans d'autres. Chez les adultes, les chiffres de crise cardiaque et de malaise respiratoire sont beaucoup plus élevés. Donc, les gens payent de leur vie et à tous les niveaux à cause de la pollution de l'air.
Dr Tayob pointe un doigt accusateur sur les mines de charbon et la mauvaise gouvernance. Les habitants accusent les compagnies minières d'avoir fait très peu pour améliorer la vie de la communauté. Dr Mohamed Tayob, du centre médical Bamba Naani.
One cannot be faulted in thinking.
On ne peut reprocher à personne de penser. Y a-t-il un certain niveau de corruption dans cette zone où les gros poissons s'étirent littéralement d'affaires à bon compte? C'est juste la réalité. Je voudrais que quelqu'un vienne contester ce fait et me contredire.
La VOA a contacté les trois plus grandes mines de charbon de la région pour les faire réagir, mais aucune n'a voulu répondre. Bafana Latswayo, militant écologiste du réseau Justice Environnementale, se bat pour que cette région, très ensoleillée, se tourne vers une ressource énergétique plus propre.
Nous ne disons pas que nous voulons fermer les mines. Nous devons utiliser les énergies renouvelables. Nous disons qu'il faut que les gens fabriquent en Afrique du Sud des panneaux solaires qu'ils sont supposés installer et entretenir.
C'est un rêve très lointain pour Ndouli et ses voisins, qui subissent de plein fouet un chômage élevé et tous, y compris les enfants, ont des problèmes de santé. Pourtant, cette région était belle. William Djiyane, un autre militant écologiste.
Maintenant, pour Malanga, c'est une agonie sans fin. Ce n'est plus du pain et du beurre. C'est une agonie sans fin.
Le charbon alimente le réseau électrique sud-africain, ce qui le sauvegarde économiquement. Mais pour les communautés vivant à l'ombre des mines et qui manquent de tous les services de base, comme l'électricité ou l'eau courante, les progrès semblent très lointains.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'indice de perception de la corruption 2018 de Transparency International révèle que l'incapacité persistante de la plupart des pays à contrôler la corruption contribue à une crise de la démocratie dans le monde. La RDC, le Tchad, le Congo et le Burundi sont les pays francophones les plus mal placés et en régression depuis 2015. La Somalie est en queue de peloton, tandis que le Botswana est le pays le moins corrompu d'Afrique, suivi du Rwanda et de la Namibie. Nathalie Barge a demandé pourquoi à Ernest Pararo, représentant de Transparency International en RDC.
Effectivement, c'est pour dire que la corruption affecte pas mal d'États. Et au niveau mondial, il y a des États qui avaient fait beaucoup de progrès, mais ces cinq dernières années, ces États-là sont en train de régresser à cause des changements politiques. Dans plusieurs États européens, il y a maintenant des populistes. Et parfois, ces partis politiques populistes ne voient pas la corruption comme une priorité des priorités. C'est dans ce sens-là que aujourd'hui, il y a le Danemark, peut-être, qui avait 90%. Aujourd'hui, ils ont 88%. Et en Afrique, c'est plus grave encore parce que la corruption affecte pas mal d'États africains. La plupart des pays africains n'ont pas atteint 50%. Ils ont en général 31-32%. Il y a des conséquences sur l'économie, il y a des conséquences sur la sécurité, il y a des conséquences sur la démocratie même. La corruption affecte les processus démocratiques.
À propos de la République démocratique du Congo, c'est en effet une très mauvaise place, on peut le dire, un 161e, l'indice est de 20 et il a baissé depuis 2015 également. Donc, qu'en est-il aujourd'hui?
En RDC, effectivement, nous déplorons qu'il y ait toujours des régressions, étant donné que nous avons vécu pendant les 10 dernières années un régime qui ne mettait pas la lutte contre la corruption comme une priorité. Et c'est déplorable, mais nous pensons que avec les nouvelles autorités, ils prendront en compte ces rapports et ils vont fournir beaucoup d'efforts pour renverser la tendance.
Alors, on remarque cette tendance en baisse hein, depuis 2015 pour au moins 4 pays d'Afrique francophone centrale, le Burundi, le Congo, le Tchad, la RDC, on a même la Guinée équatoriale, c'est en baisse également. Comment vous l'expliquez maintenant au niveau régional?
Au niveau régional, les pays que vous citez sont des pays autocratiques. Et dans des États autocratiques, on utilise les pots de vin, on utilise les détournements des deniers publics pour affaiblir ou combattre les opposants, et pour ne pas même promouvoir la démocratie. C'est une tendance qui se retrouve aujourd'hui en Afrique centrale. Il faudrait que les citoyens puissent demander qu'il y ait des réformes, et des réformes qui renforcent la lutte contre la corruption dans ces États-là. Ce n'est que lorsqu'il y a démocratie qu'il y aura ce qu'on appelle les Anglais « check and balance », où il y aura de la redevabilité, les politiciens pourront rendre compte aux citoyens, la justice qui pourra se saisir des dossiers et sanctionner ce qui s'adonne aux pratiques de corruption. Mais aussi longtemps que les citoyens ne demandent pas aux policiers des comptes, on continuera toujours dans le même système.
Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Sims Loumami et Firmin Max Koyaveda. À la console, Chang. Au micro, Clermont Agibour et Abdourahmane Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Tout de suite, le RM Show présenté par Roger Montour. Très bonne soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.